Jean-Bernard Leroy. Pour les trois mois à venir, je vous propose une excursion dans le livre de la sagesse à partir de l'étude de Divo Barsotti qui a écrit sur ce sujet un ouvrage recommandé par plusieurs théologiens. Beaucoup de passages de cet exposé seront lus directement, ne m'excusez pas de plagiat. Le livre de la sagesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne m'accusez pas de plagiat. Le livre de la sagesse est le seul de l'Ancien Testament qui ait été écrit en grec. Le choix de la langue est important dans l'expression de la pensée, comme le montrent les discussions actuelles sur les traductions liturgiques. Passons sur les barbarismes exaspérants qui inondent notre langue. Opportunité au lieu d'occasion, l'opportunité caractérise ce qui est souhaitable. Compétence au lieu de responsabilité, ce n'est pas parce qu'on vous confie une responsabilité qu'on est capable de l'assurer. Dans le domaine liturgique, citons les discussions concernant le nenos in ducas in tentationem, pour ne citer que ce cas. Dans le donc, le problème de la langue est important. La langue sémitique de l'Ancien Testament est très simple quant au vocabulaire et quant à la syntaxe. C'est une langue de l'action. La langue grecque, au vocabulaire riche et à la syntaxe subtile, est la langue de la pensée. Elle offre la possibilité d'approfondir les questions parfois déconcertantes qui se posent à la conscience de l'homme, en particulier dans le domaine religieux. L'auteur inspiré du livre de la sagesse ne connaît peut-être pas toutes les nuances de la philosophie grecque, mais, loin de la rejeter, il présente sa doctrine en termes grecs et adopte leur manière de rédiger. Cela montre clairement l'importance du livre de la sagesse dans la révélation. Dieu ne s'adresse plus à Israël seul. Le livre de la sagesse est témoin de la mission d'Israël dans le monde entier. Le fait que ce livre ait été jugé inspiré, annoncé par les promesses de Dieu, le fait que ce livre ait été jugé inspiré annonce que les promesses de Dieu réaliseront le salut de tous les peuples, de toutes les alliances. Le Nouveau Testament annonce le développement d'un christianisme sorti de sa matrice sémitique pour recevoir et s'allier à la culture gréco-romaine en attendant les cultures celtes, slaves, asiatiques et autres, et toutes celles du monde. Saint Thomas d'Aquin succède à Isaïe. Le livre est présenté comme ayant pour auteur le roi Salomon, un roi qui devait pourtant être bien occupé, avec, selon le livre des rois, 700 épouses et 300 concubines. Cette attribution est due à ce que Salomon réalise en lui l'idéal de la royauté. Il concrétise aussi la vocation de l'homme. Salomon a épousé la sagesse et des femmes de toutes les nations. Il figure l'homme qui a rejoint la sagesse antique et sa vocation royale sur toutes les nations. Le sage est celui qui gouverne l'humanité. L'art de régner vient d'Égypte, de Grèce, d'Israël, de Babylone, de toutes les cultures. L'auteur parle au nom de Salomon, le plus sage des hommes. Le livre de la sagesse a certainement été composé après la version des Septante, cette traduction de l'Ancien Testament en grec, attribuée à 70 sages érudits dans les années 285-280 avant Jésus-Christ. Ce texte fut repris en latin par saint Jérôme à la fin du IVe siècle. Ce fut la Vulgate, base de la liturgie et de l'enseignement du catholicisme. La version des Septante s'adressait à des Juifs qui se sentaient déjà citoyens du monde. Ce fut le dernier écrit de l'Ancien Testament. En quelque sorte, on passe de l'Ancien Testament au Nouveau. La Bible de la Sagesse était rédigée à Alexandrie, où toutes les cultures se mêlaient depuis la conquête d'Alexandre et permettaient des rencontres avec les sages de la Perse et de l'Inde. Il ne fut pas reconnu par les pharisiens qui le trouvaient trop hellénisé. Mais le Concile de Trente, au XVIe siècle, le reconnut comme inspiré, partie du canon des Écritures. Le protestantisme le rejette, comme il le fit aussi l'épître de saint Jacques. Le thème fondamental du livre est la providence. Les psaumes n'affirmaient que l'obéissance, et que l'obéissance à Dieu permettait d'obtenir pour l'homme la prospérité et la vie. Mais l'expérience montre que ceci n'a rien de systématique, comme l'expose le livre de Job. Le livre de la sagesse enseigne que la vie présente ne trouve son couronnement qu'après la mort. La providence est un terme typiquement grec. C'est elle que le livre présente sous le nom de sagesse, cette sagesse qui assiste à Dieu dans la création du monde et qui guide l'humanité dans son cheminement. Pourtant, ce chemin aboutit à la mort. Comment admettre cet échec final? Le livre de la sagesse certifie l'immortalité. La mort n'est qu'un accident biologique qui n'atteint pas l'homme dans sa profondeur. Si celui qui ne croit pas vit la mort avant même de mourir, quiconque se laisse guider par la sagesse pense en immortel comme la sagesse elle-même. Dès le premier chapitre du livre de la sagesse, on est introduit dans une atmosphère très différente de celle des psaumes ou des prophètes, l'atmosphère qui est souvent dramatique. L'auteur nous présente une expérience religieuse analogue à celle des autres religions de l'humanité, mais avec une nuance particulière, car pour lui, Dieu est un Dieu personnel qui a pour l'homme un amour d'élection. C'est là le fond de l'affaire. Nous sommes en marche vers Benoît XVI. Ce livre de la sagesse traduit le témoignage de l'homme religieux qui cherche un sens à la vie, qui prête une connaissance intime de Dieu qui a créé toutes choses pour qu'elles existent toujours. Le péché consiste à se soustraire à l'action positive de Dieu. Une âme qui prétendant chercher Dieu ne cherche en définitive qu'elle-même. Une âme qui use de la piété au service de l'orgueil, sans rapport réel avec Dieu, qui est vérité. Jésus écarte les pharisiens et repousse leur hypocrisie. Le mensonge reste un des péchés les plus graves. L'homme cherche à désobéir à Dieu avec une volonté expresse de refus. La provocation suit rapidement le mensonge. L'homme veut s'élever au-dessus de Dieu, cherche à le tenter comme Satan tenta Jésus en le mettant à l'épreuve. Le livre de la sagesse témoigne d'une expérience religieuse authentique. On rencontre des analogies dans certaines religions. Le mal est seulement dans l'homme. C'est l'homme et l'ange déchu qui peut se soustraire à l'amour de Dieu. Dans le livre de la sagesse, le consentement à l'amour de Dieu est source de vie. Une âme qui est vraiment simple est une âme toujours ouverte à la vérité et à l'amour de Dieu. Ainsi, la sagesse divine est sémitique et hellénique. La justice est obéissance à la Torah et à la vertu. Ce livre est une exhortation à tous les puissants. Venez tous qui gouvernez la terre, il n'enseigne pas la résurrection de la chair, mais une immortalité de l'âme comme l'enseignait Platon. Les justes, les sages, participent à la vie de Dieu et rejoindront avec Dieu et règne, pardon. Les justes, les sages participent à la vie de Dieu et régneront avec Dieu sur toute la terre. La sagesse, c'est le livre de l'amour de Dieu pour les hommes. Voilà, nous allons analyser cela plus profondément les semaines qui viennent. C'est très court.
Oui, la sagesse, c'est
la dernière. Je ne sais
plus. C'est la providence en somme.
C'est la providence. Mais non, c'est pas la fin. Ah, ça recommence.